Des sous et des âmes. Une émission de Pascal Fourier, un peu enrouée. Et notre invité aujourd'hui sera Aurélien Bernier, responsable de la commission OGM du mouvement Attaque. Alors les OGM, je n'en avais plus parlé depuis une interview qui me semblait très claire que j'avais faite avec José Bové en 2002. Et puis je ne voyais pas bien ce que les OGM permettaient de comprendre de la mondialisation libérale. Et puis j'ai suivi ce que faisait Aurélien Bernier, j'ai appris à le connaître, et voilà, j'ai réussi à le coincer dans un endroit bruyant, histoire que vous ne perdiez pas les bonnes habitudes. On était pressé, il avait un train à prendre. Peu de questions, mais 21 minutes d'entretien. Donc c'est une vraie question. C'est en quoi l'introduction des OGM et le soutien à l'introduction des OGM est-il révélateur de cette phase du capitalisme ou du néolibéralisme ?
Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que les OGM sont en tant que tel un outil, c'est-à-dire que grâce au progrès de la génétique dans la deuxième moitié du XXe siècle, on a réussi à prélever des gènes d'un organisme pour les insérer dans un autre, et donc à créer des nouveaux organismes qui n'existaient pas à l'état naturel et qui avaient de nouvelles propriétés. Donc par exemple, on a été en mesure de produire des plantes qui sécrétaient elles-mêmes leur insecticide ou qui toléraient un herbicide, qui avaient des nouvelles propriétés agronomiques. Et en fait, l'intérêt des firmes pour les OGM, il s'explique pas tant par ces nouvelles propriétés agronomiques que par le fait que dès le départ, cette construction génétique s'est accompagnée du développement, de la revendication de la logique des brevets. C'est-à-dire que les firmes qui développaient ces OGM ont dit, écoutez, on considère que ces nouvelles constructions génétiques sont brevetables, de par leur nouveauté, de par leur spécificité, on demande à pouvoir déposer des brevets dessus. Alors que les semences traditionnelles, on avait un niveau de protection juridique qui était un niveau de protection, qu'on peut critiquer, mais qui dit en gros que l'obtenteur d'une variété traditionnelle, c'est-à-dire obtenue par sélection naturelle, on croise deux variétés, on en obtient une nouvelle. Cette variété, la firme qui l'a obtenue détient l'exclusivité de sa commercialisation. Mais par contre, cette variété, elle pouvait être réutilisée par n'importe qui pour faire de nouveaux croisements et pour développer de nouvelles variétés. Donc en fait, on avait un patrimoine génétique qui restait de fait dans le domaine public. Quand les firmes ont introduit les OGM et qu'elles ont introduit la logique de brevet, en fait, ce qu'elles voulaient et ce qu'elles ont réussi à obtenir, c'est le fait que la semence, le patrimoine génétique de la semence, soit couvert par un brevet, et c'est-à-dire tombe vraiment dans le domaine privé. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne ce qu'on connaît assez bien sur l'informatique. Quand on achète un logiciel breveté et qu'on installe un logiciel breveté sur un ordinateur, on a une procédure d'installation qui se déroule. Et au début de la procédure, en général, on a un texte qui est écrit en tout petit, qui s'appelle contrat de licence, avec deux boutons, un bouton j'accepte et un bouton j'accepte pas. Et si on est normalement constitué, on lit pas le texte, on clique sur j'accepte, et on se retrouve lié à la firme qui a commercialisé le logiciel sur un certain nombre de clauses quant à l'utilisation de ce logiciel. Donc on n'a pas le droit de le copier, on n'a pas le droit de le donner à quelqu'un, etc. Bon. Le mécanisme des brevets sur les OGM fait que les firmes peuvent faire et font signer le même type de contrat à des agriculteurs qui utilisent ces OGM. Et les termes du contrat, c'est par exemple que l'agriculteur ne peut pas ressemer du grain issu de sa récolte d'OGM l'année suivante, comme un utilisateur de logiciel ne peut pas dupliquer son logiciel. Donc là, on interdit à l'agriculteur de ressemer, ce qui est quand même la pratique fondatrice de l'agriculture. Et puis on peut avoir des clauses comme le fait que l'agriculteur s'engage à utiliser des produits de traitement sur ses OGM qui sont également vendus par la firme qui produit les OGM. et donc que l'agriculteur n'aille pas acheter des produits génériques moins chers à un concurrent. Donc on a vraiment une logique d'augmentation des profits, et l'intérêt des OGM sur le plan agronomique ont été complètement contredits. On sait qu'il n'y a pas d'augmentation de rendement, qu'il n'y a pas les propriétés miraculeuses qu'on nous annonçait. Aujourd'hui, le seul intérêt démontré des OGM par ce biais-là, c'est d'augmenter les profits des multinationales. C'est vraiment l'heure, ça ?
Oui.
À 4 heures, il faut qu'on parte.
Il part à 16 minutes.
Avec Jikiel, d'accord.
Enfin, 16-5, tu peux partir 6 minutes après ?
Ouais.
Et oui, je vous l'avais dit, Aurélien Bernier, qui est donc responsable de la commission OGM du mouvement Attaque, était pressé, il avait un train à prendre. Allez, hop, ni une ni deux, on a continué les questions.
Non, là, finalement, j'ai bien compris quel était le problème que posaient les OGM, mais par contre, ce que j'arrive pas vraiment à comprendre, c'est pourquoi des gouvernements ou des institutions, par exemple comme l'Europe ou l'OMC, défendent justement ce... Oui, ils défendent les OGM, finalement, des entreprises privées, si j'ai bien compris ce que vous me disiez.
Bon, en fait, ce qui s'est passé... Les OGM se sont développés au début en Amérique du Nord, aux États-Unis, et c'est des firmes américaines, des grosses boîtes comme Monsanto qui sont à l'origine du développement et de la volonté de commercialiser les OGM. Et évidemment, comme c'est une technologie nouvelle et que ça pose quand même un certain nombre de questions sur l'impact environnemental, sanitaire et sur les modèles agricoles existants, il s'est posé la question du statut des OGM, de la législation qui allait encadrer les OGM. Et en fait, les États-Unis ont pris, le gouvernement de Ronald Reagan à l'époque, a pris une décision extrêmement importante, qui a été de dire que les OGM seraient évalués par rapport sur les mêmes critères que les aliments conventionnels. C'est-à-dire sur des critères de toxicologie, de toxicité aiguë, sur les allergènes connus, mais qu'on n'aurait pas d'études spécifiques qui porte sur le fait que des OGM soient des aliments nouveaux. Donc on prend en fait les mêmes mécanismes d'évaluation qu'on a sur les aliments traditionnels, qu'on applique aux OGM, et on fait complètement abstraction de la façon dont ils ont été construits. Donc à partir de là, le gouvernement américain prend la décision de soutenir ces entreprises de biotechnologie et de leur faire cadeau de l'économie, de toute l'évaluation environnementale et sanitaire. Et on va retrouver exactement la même chose au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, bon, où on connaît parfaitement le poids du gouvernement américain. Et l'OMC, bon, avec sa logique de libre-échange débridé et de non-entrave au commerce, reprend l'idée que les OGM sont des aliments comme les autres et qu'il ne doit pas y avoir d'évaluation spécifique et même qu'il ne doit pas y avoir d'étiquetage spécifique. Alors, en fait, en Europe... Bon, on connaît aussi les orientations libérales de l'Europe, mais ce qui s'est passé entre-temps, c'est que la population européenne a posé un certain nombre de questions par rapport à l'apparition de ces OGM, et on a eu un mouvement citoyen, et qui s'explique également par le fait qu'entre-temps, on a eu des crises sanitaires comme celle de la vache folle, qui font que les citoyens n'ont pas accepté immédiatement l'idée même des OGM et que l'Europe a été obligée de tenir compte de ça et de mettre en place un minimum de précautions apparentes. Alors pourquoi apparentes ? Parce qu'en fait le système d'évaluation européen est basé sur une évaluation au cas par cas des OGM. C'est-à-dire que contrairement aux États-Unis où on dit bon les OGM seront évalués sur la même base que des produits traditionnels, l'Europe dit on va demander à ce qu'on nous présente des dossiers d'homologation des OGM, on va les examiner et on autorisera ou non. Et en demandant une évaluation spécifique aux OGM. Sauf que, quand on regarde dans les faits, cette évaluation spécifique, elle est produite de A à Z par les firmes qui déposent les dossiers. Et que la commission, les commissions d'homologation au niveau européen et au niveau des États membres ne font que observer les dossiers fournis par les multinationales, qu'en plus ils n'ont pas les moyens véritablement ni le temps de faire le travail pour expertiser ces études et qui n'ont jamais demandé la moindre contre-expertise indépendante, et que donc tous les dossiers qui autorisent les OGM aujourd'hui sont validés sur la base d'éléments scientifiques fournis par les multinationales. qui en plus se cache derrière le secret industriel pour en fournir le moins possible. Voilà. Donc l'Europe se donne une image raisonnable en disant on prend des précautions, mais en fait elle autorise les OGM, bon, avec un peu plus d'emballage, mais sur la même logique qu'on a en Amérique du Nord, aux États-Unis ou au Canada. Voilà. Ce qui est assez paradoxal et très intéressant, et qui peut certainement servir de point d'appui pour changer un peu la donne, c'est que l'OMC a eu à juger un litige entre les pays producteurs d'OGM, comme les États-Unis et l'Union européenne, justement parce que l'Union européenne a été accusée d'avoir un peu trop traîné pour autoriser les OGM et avoir mis quelques bâtons dans les roues, des obstacles non nécessaires au commerce, selon l'expression consacrée. Et donc, l'Union européenne a eu à se défendre à l'OMC. Et ce qui est passionnant, c'est que dans son mémoire en défense, pour justifier ses précautions, elle a critiqué en détail son système d'évaluation et elle écrit noir sur blanc qu'aujourd'hui, elle ne peut pas justifier le fait que les OGM soient sûrs sur le plan sanitaire et sur le plan environnemental. Donc on a un double discours européen. Devant les habitants, on dit « ne vous inquiétez pas, on dissémine des OGM, mais on s'est donné les moyens que ça se fasse sans problème ». Et à l'OMC, on a le vrai visage de l'évaluation des OGM en Europe, c'est-à-dire un système complètement inopérant et un aveu que les OGM sont disséminés avec aucun moyen de vérifier l'innocuité à la fois sur la santé, à la fois sur l'environnement.
Il y a des tas de gens qui passent sans jamais regarder personne. Il y en a d'autres qui s'effacent au moindre regard qui les espionne. Il y a ceux qui prennent le temps de s'arrêter pour quelques notes. Il y en a d'autres si impatients qu'on croirait qu'ils ont la bougeotte. Il y a la dame avec son chien saucissonné dans un bagage. Il y a ce monsieur en viager qui essaie de cacher son âge. Il y a le mec avec sa crête et ce à coller sur son sac. Et cette jeune fille un peu coquette qui va prendre ses cours à la fac. Moi qui n'étais bien guéreux plus qu'un fantassin de la cité. Le matin j'attendais mon bus pour pouvoir me rendre au lycée. Jamais je n'aurais pu croire qu'avec une guitare sur le dos, je me retrouverais à chanter l'espoir pour les usagers du métro. Il y a ceux qui passent les barrières, comme quand on joue à saute-mouton. Il y a cette jolie infirmière qui ne vous dira pas son prénom. Il y a ce supporter de foot et son maillot du PSG. Et ce manteau en peau de mammouth porté par une femme dérangée. Il y a cette bande de contrôleurs cachés comme pour vous tendre un piège. Il y a tous ces bourreaux des cœurs, hé les gars, j'ai repéré votre manège. Il y a celui que l'on ne voit pas caché derrière son journal. Et celui qui fume je ne sais quoi. Oh mais mon Dieu, c'est un scandale. Moi qui n'étais bien guère plus qu'un fantassin de la cité. Le matin j'attendais mon bus pour pouvoir me rendre au lycée. Jamais je n'aurais pu croire qu'avec une guitare sur le dos, je me retrouverais à chanter l'espoir pour les usagers du métro. Y'a ce conducteur de train qui fait des blagues dans son micro. Puis y'a cette bande de gamins bah, qui te font les poches sans dire un mot. Il y a le bonhomme d'en face qui met les doigts dans son tarin. Bah, y'a tellement plus de place qu'on est collé à son voisin. Y'a ces touristes japonais qui ne font que prendre des photos. Et puis y'a le mec un peu distrait là, qui se prend la tête dans un poteau. Et moi qui chante mes paroles pour faire découvrir ma musique. C'est sûr que dans cette boîte de tôle, on peut toucher un large public. Moi qui n'étais bien guère plus qu'un fantassin de la cité. Le matin j'attendais mon bus pour pouvoir me rendre au lycée. Jamais je n'aurais pu croire qu'avec une guitare sur le dos, je me retrouverais à chanter l'espoir pour les usages. J'ai du métro.
Aligre FM, des souhaits des hommes. Alors tout à l'heure j'étais dans le métro pour venir à Aligre. Il y avait un chanteur qui chantait juste avec sa guitare. je lui ai parlé d'Aligre, moi la timide. Il m'a donné son CD. Il s'appelle Monsieur Melon, a un site du même nom, et j'espère qu'on entendra bientôt à nouveau sur Aligre. En tous les cas, on est toujours avec Aurélien Bernier, responsable de la commission OGM du mouvement Attaque, toujours aussi pressé et toujours avec aussi peu de questions.
Tout à l'heure, vous avez dit que les États-Unis ont fait le cadeau aux entreprises multinationales comme Monsanto de l'évaluation environnementale. Et moi, j'arrive pas bien à comprendre pourquoi un gouvernement peut faire ce choix de faire un cadeau à une entreprise privée.
Enfin, clairement, on est dans une logique où on favorise les intérêts privés de quelques firmes, parce qu'elles se comptent quasiment sur les doigts de la main, au détriment de l'intérêt des populations. Si on avait fait le travail correctement, on aurait évalué les OGM au regard des impacts environnementaux, des impacts sanitaires et des impacts sur les systèmes agraires qui existaient avant qu'on introduise les cultures OGM. Voilà, est-ce qu'on va pas mettre en danger les agriculteurs qui veulent cultiver sans OGM? Sauf que si on avait introduit cette évaluation-là, ça aurait coûté énormément d'argent aux firmes et la rentabilité des OGM tombait par terre. Donc on a privilégié, encore une fois, on a favorisé le privé au détriment de l'intérêt public et on a favorisé une logique, alors on peut dire de marchandisation, où on fait du profit sur quelque chose d'aussi important que les semences, que l'avenir de l'agriculture et que l'alimentation. Et ce profit, il se fait dans une logique. Alors, on peut faire des comparaisons, c'est un peu comme la révolution industrielle. Hein. Le but des firmes, c'est de produire un minimum de semences qui vont pouvoir vendre à un maximum de personnes. Donc on est vraiment dans une logique de rentabilité économique. Et les OGM sont un outil particulièrement performant et particulièrement intéressant du point de vue de la rentabilité économique pour arriver à ce but. Mais on peut dire aujourd'hui qu'une firme comme Monsanto, son but principal, c'est de produire du profit pour ses actionnaires. Et le moyen qu'elle a trouvé pour produire du profit pour ses actionnaires, c'est de vendre des semences, de vendre des produits de traitement, et puis, depuis quelques années, de vendre des semences OGM qui augmentent encore un peu plus les taux de profit.
Et l'intérêt pour les États, ça peut être à ce moment-là d'avoir des grosses firmes puissantes.
Oui, c'est ça. Enfin, l'intérêt, c'est effectivement que Monsanto est un des plus grands semenciers au monde, qui pèse énormément. Et puis, de façon beaucoup plus pragmatique, Monsanto, sur les dernières campagnes électorales, a financé à parité les démocrates et les républicains suffisamment de façon à ce que, de toute façon, ils étaient sûrs d'être gagnants à tous les coups. Donc c'est un lobby phénoménal. Il faut savoir qu'on retrouve comme négociateur à l'OMC pour les États-Unis des anciens de Monsanto. Donc il y a vraiment une perméabilité à ce niveau-là entre le pouvoir politique américain et les firmes privées. Et bon, partant de là, Monsanto fait comme un tas de firmes, elle défend ses intérêts, elle place des gens au lieu stratégique, donc elle fait du lobbying au niveau de la Commission européenne, elle fait du lobbying auprès du gouvernement américain, et elle est présente quasiment en tant que telle à l'Organisation mondiale du commerce. Et à partir de là, voilà, toute la logique et on peut très bien voir comment se construit cette aberration qui consiste à essayer d'imposer les OGM envers et contre tout, et encore une fois, sans la moindre évaluation et pour le plus grand profit de quelques firmes et quelques actionnaires.
Et quel est l'intérêt de l'Europe ? Est-ce qu'il y a des grandes firmes qui s'occupent d'OGM, des firmes européennes ?
Oui, alors après, on a une firme comme Limagrain, qui est une boîte française, qui est quand même le quatrième semencier mondial. On présente toujours, un peu de façon caricaturale, les méchants États-Unis qui produisent des OGM et qui veulent envahir le monde. Bon, c'est pas si simple que ça. Limagrain a beaucoup investi sur la technologie des OGM. Et d'ailleurs, Limagrain risque d'être le premier semencier à commercialiser des semences transgéniques en France, dans les coopératives. Donc oui, là, on trouve un accord sur la dissémination des OGM. Et puis, il ne faut pas oublier la logique libérale qui a cours aujourd'hui dans l'Union européenne. Si jamais on commence à mettre des critères environnementaux, des critères d'évaluation sanitaire sur les OGM, si on commence à mettre quelques barrières un peu contraignantes aux multinationales sur cette question-là, pourquoi le faire sur les OGM et pas sur les pesticides ? Et pourquoi pas pousser la logique plus loin et avoir une évaluation environnementale qui porte sur de plus en plus de domaines d'activité ? Donc c'est aussi défendre une idéologie. C'est la liberté de commerce. Et à la limite, les OGM sont une belle illustration. Mais c'est une belle illustration d'une logique globale. Et c'est aussi pour ça que le combat qu'on mène sur les OGM dépasse très largement cette question-là. Parce que ce qu'on peut obtenir comme renversement de tendance, renversement des priorités, c'est-à-dire faire passer la question de la sécurité environnementale et sanitaire, de la question démocratique aussi, de la volonté des citoyens sur le dossier des OGM, c'est enfoncer un coin quelque part, et ce raisonnement-là, on pourra l'avoir sur d'autres thèmes. Et c'est une porte ouverte dont aussi bien l'Union européenne que l'OMC ne veut pas.
Et oui, c'était des sous et des hommes en compagnie de Aurélien Bernier à propos des OGM. Et bien justement, la semaine prochaine, je vous propose de réécouter l'émission que j'avais faite en 2002, ça date, avec José Bové. Ça permettra de compléter ce qu'a pu dire Aurélien. Et puis je voulais vous signaler quelque chose, c'est que le 7 février, qui est, sauf erreur de ma part, un mercredi, il y a une conférence avec Jacques Sapir, qui est vraiment une de mes admirations actuelles. Ça se passera au FIAP, c'est rue Cabanis, dans le 14e, c'est à 20h. Il va parler des délocalisations, et je pense aussi, puisque c'est son fer de lance de protectionnisme, je ne peux que vous y inviter à y venir. C'est un orateur absolument remarquable, donc c'est au FIAP, rue Cabanis, à 20h, le 7 février. Voilà, à la semaine prochaine avec José Bové et à la semaine encore d'après avec Hakim El Karoui qui a écrit un livre absolument remarquable qui s'appelle L'exception française. Il y a plein de choses et il est notamment pour un néoprotectionnisme européen pas mal intéressant. Voilà, à bientôt.